parler des luttes et les faire entendre.
Vous allez écouter un documentaire sur les luttes en territoires ruraux, en France et à la frontière franco-italienne. C'est un montage collectif destiné à faire découvrir, expliquer, exposer des luttes actuelles à une ou des personnes qui n'en auraient jamais entendu parler. Retour sur les stratégies des multinationales et de l'État qui tentent d'imposer de grands projets et aussi sur les résistances qui leur font face.
Vous allez entendre un documentaire sonore portant sur quatre grands projets d'aménagement du territoire. En France, mais pas seulement, puisqu'on ira aussi du côté du nord de l'Italie.
Et en France, on va parler notamment de Notre-Dame-des-Landes, dans l'ouest de la France, où un projet d'aéroport court depuis les années 70. Des gens s'y opposent depuis la même durée. Et alors là, depuis quelques années, il y a une zone à défendre qui a été installée sur place, qu'on appelle la ZAD, sur un immense bocage occupé par des agriculteurs et agricultrices et des personnes de tous horizons confondus.
Ensuite, on parlera aussi de Sivens, dans le Tarn, donc dans le sud-ouest de la France, où il y a un grand projet de barrage qui date aussi de plusieurs années. Qui devait être amené à être construit pour construire une retenue d'eau pour irriguer des grandes cultures de maïs semences industrielles. Et c'est un barrage qui a donné lieu à beaucoup de luttes sur place. La répression est allée très loin, puisqu'il y a même une personne qui est morte sous les tirs de la gendarmerie en 2014 lors d'une manifestation contre le barrage. Et les sons qu'on entendra datent de cette année-là.
On ira aussi à Bure, dans l'est de la France, où depuis 1995, il y a un projet d'un site d'enfouissement de déchets nucléaires qui est imposé à la population peu nombreuse, ce qui profite bien aux aménageurs. Et ça, malgré les historiques luttes antinucléaires en France et autour, et aussi les positionnements très réfractaires de la population locale.
Et on parlera également du Val des Susa, qui est une vallée dans le nord de l'Italie, où un grand projet de ligne ferroviaire à grande vitesse devant relier Lyon à Turin réveille de beaucoup d'opposition. Et donc les habitants, habitantes sur place s'organisent et se solidarisent, puisque la vallée est déjà ravagée par plein d'autres infrastructures de transport. Et donc les personnes font face à une militarisation de la vallée et s'organisent pour lutter contre ça.
Voilà, du coup, à travers ces quatre luttes qui sont éloignées géographiquement de plusieurs centaines de kilomètres, on va essayer de trouver les liens qu'il peut y avoir entre tout ça. On appelle souvent ces projets des grands projets inutiles et imposés. Alors on va se demander inutile pourquoi, utile pour qui, imposé comment. Et du coup, dans ce documentaire, on va essayer de comprendre d'un côté les intérêts du capital, les logiques des partenariats publics-privés, les stratégies mises en place par les multinationales et l'État pour arriver à leur fin, et puis de l'autre côté, les luttes et l'organisation des résistances de la vie quotidienne par les opposants.
Certaines personnes font pression, ce sont des gens qui cultivent du maïs de semences qui rapportent, parce que ça se fait sous contrat.
Donc c'est pour arroser les maïs et
avec
tout là
des, oui, le maïs sous contrat, le maïs semences, c'est du maïs qui est produit par des grosses firmes de l'agroalimentaire, Monsanto, ce genre de choses. Ces grosses firmes, elles payent des agriculteurs pour qu'ils sèment du maïs. Et donc, ils ont un revenu garanti. En semant ce maïs, ils sont sûrs de gagner tant d'argent à l'hectare. Mais il leur faut de l'eau. Et ça, Monsanto, il n'amène pas l'eau. Ils se débrouillent pour que ce soit nous, la collectivité publique, les gens, grâce à leurs impôts, qui financent des ouvrages, comme des barrages, de manière à ce qu'on mette en place ce qu'on appelle l'infrastructure pour qu'ils puissent faire la culture de laquelle ils vont vivre. Et nous, on dit, plein de gens disent maintenant, stop, cette agriculture-là, elle est mauvaise, elle utilise des intrants chimiques, elle pollue la terre, elle pollue l'eau, elle a trop besoin d'eau, l'eau c'est une ressource précieuse, on en a besoin pour boire, c'est irremplaçable l'eau, donc l'eau, il faut arrêter avec cette agriculture-là, il faut cultiver autrement. Et il y en a assez d'enrichir les grosses firmes multinationales que sont Monsanto et qui empêchent par ailleurs d'autres paysans de replanter leurs graines dans leurs champs comme ça s'est toujours fait et qui veulent vendre des semences. Donc voilà pourquoi les gens ils se rebellent et qu'ils ne veulent plus qu'on dépense de l'argent public pour, dans l'intérêt à la fois de quelques personnes qui vont avoir un revenu garanti, mais ce n'est pas eux surtout, c'est ce qu'il y a derrière, c'est surtout tout un système de grandes firmes qui de cette manière assurent, si tu veux, le bien-être de leurs rentiers. Parce qu'en fait, elles ont tellement d'argent que c'est des gens qui ne travaillent pas, ce qu'on appelle les actionnaires, qui récupèrent les bénéfices du travail qui est fait par d'autres.
Ils sont complètement cons.
Ils sont surtout cupides, c'est-à-dire que...
Cupides,
c'est-à-dire qu'ils veulent surtout que tout ce qui gagnait est que pour eux. Ils ne veulent pas partager. Et là, plein de gens disent
non,
il faut que ça se partage, c'est des non-partageurs. Et nous disent, l'eau, il faut que ça se partage. La terre, il faut que ça se partage. L'air, l'eau, tout ça, il faut que ça soit en bon état. Pour nous, là, qui vivons, les gens de mon âge, les gens comme la dame, les gens comme vous, plus jeunes, et ceux qui ne sont pas encore nés. Mais qui viendront tôt ou tard et qui auront besoin d'eau.
Ce que tu as dit là, les cupides, c'est des radins.
C'est des radins, voilà. Radins, c'est le mot.
Intéressé par l'argent. C'est pas radin. Cupide, c'est qui ne fonctionne que vers l'argent. C'est-à-dire que tout projet doit faire de l'argent et puis ils aiment l'argent, aimer l'argent. Qu'importe ce que ça fait.
Et ils partagent pas.
Non, ils évitent de partager. Ça fait 40 ans qu'il y a un projet ici qui ressurgit. C'est un peu comme le Loch Ness, c'est-à-dire de temps en temps le monstre ressort. Et là, il est bien ressorti grâce à la collusion d'élus, Conseil Général du Tarn, Conseil Général du 82, compagnie, Société d'économie mixte, Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, qui est celui qui est l'entreprise chargée de faire les travaux, mais c'est aussi l'entreprise qui a fait les études.
Pour savoir si
et quand on étudie, et quand on voit, alors elle est jugée partie, le collectif du TST demande une étude indépendante. Parce que l'étude qu'ils ont faite, en plus, elle est fausse. On a fait une vraie leçon de mathématiques devant la mairie de Lille-sur-Tarn, il n'y a pas très longtemps, lors de l'avenue du président du conseil régional de Midi-Pyrénées. Et voilà, à laquelle on a démontré qu'en plus, leurs chiffres étaient faux.
Je pense, et je suis persuadée qu'il y a de très très gros enjeux financiers à la clé, puisque Vinci, c'est quand même pas n'importe quoi.
C'est qui Vinci ?
Ah, bah, c'est une grosse multinationale qui touche un peu à tout et dont le principal intérêt est de faire du profit. Donc à partir de ça, on peut se poser plein de questions. Il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites sur cette multinationale. Il y a eu des tracts qui ont été plus ou moins ciblés sur cette entreprise. Et c'est pas rien que le partenariat public-privé qui a été signé avec Vinci, ils essaient d'aller jusqu'au bout. Et puis je pense qu'il y a aussi une volonté politique d'un certain nombre de gouvernements, que ce soit français ou ailleurs, comment dire, un peu de course, non pas l'échalote, mais aux grandiloquents et aux projets plus ou moins méga pharaoniques qui sont remis en cause aujourd'hui. Aujourd'hui, un certain nombre de gens, et notamment sur la ZAD, mais ailleurs, dans les comités aussi, cette question de progrès à tout prix et de gigantisme est remise en cause. C'est bien pour ça que, bon, il y a eu, c'est moins spectaculaire, mais l'opposition et la lutte qui se fait en gros aujourd'hui contre la ligne de TGV entre Lyon et Turin est toujours d'actualité, parce que justement c'est aussi cette volonté de ne pas sacrifier de zones naturelles et de ressources humaines au profit d'un bétonnage qui apparaît comme non seulement inutile mais nuisible à l'ensemble de la société.
Dans les exemples qu'on vient d'entendre qui se passent à Sivens et à Notre-Dame-des-Landes, on voit bien l'intérêt qu'ont les multinationales de conduire des grands projets comme ça. Mais ces intérêts, on a aussi entendu qu'ils étaient étroitement imbriqués avec les intérêts de l'État, des régions, des départements et du gouvernement. Et dans d'autres exemples, on voit que l'État prend même une place prédominante dans la mise en place de ces grands projets. Et c'est notamment le cas à Bure, avec le projet d'enfouissement de déchets radioactifs. Et dans le témoignage qui va suivre, on parlera notamment de l'ANDRA, qui est l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs, puisqu'il faut savoir que la France est quand même le pays le plus nucléarisé. Donc on pourra en voir les conséquences.
Nous, on était habitués à une population qui vit dans une espèce d'omerta qui est assez impressionnante, hein, parce que c'est des gens qui ne nous parlent jamais de... Enfin, qui parlent vraiment de l'Andra. Quand on les y amène et quand on les connaît depuis un moment. Et là, les langues se sont déliées et beaucoup de choses sont tombées, en fait. On apprend beaucoup de choses sur les méthodes de l'Andra, des méthodes de pression de l'Andra, c'est son acquisition de terres particulièrement agressive. Et il y a beaucoup de choses qui tombent depuis quelques mois, et surtout les mers. Hein. Les mers commencent à se positionner contre l'Andra, ce qui est très intéressant parce que c'est inédit. Les mers s'étaient pas rebiffés contre l'Andra publiquement depuis 15 ans. Donc là, c'est vraiment intéressant de voir ça. Le groupement d'intérêt public de la Meuse et celui de la Haute-Marne sont mis en place pour arroser plus exactement la Meuse et la Haute-Marne, puisque le laboratoire est implanté à la jonction de la Meuse et de la Haute-Marne, pour abonder un certain nombre de projets économiques de la région, ce qui fait que l'Andra est présenté déjà par ce biais comme une manne économique par avance pour la région. Et ça, c'est le groupement d'intérêt public qui, lui, va aboutir à la construction de salles des fêtes, rénovation des routes, l'éclairage, enfin, tout y passe, en fait. Tous les villages, on a des lampadaires rouges, des abribus rouges, tout est mis à neuf. Hein. Et le message vraiment envoyé aux populations locales, c'est « Regardez, nous sommes l'avenir de ce territoire. » C'est rendre acceptable l'inacceptable. Ouais. Parce que aucun territoire ne veut de déchets nucléaires, ça c'est évident. Et donc c'est un peu comme les soins palliatifs. En injectant progressivement de l'argent, en invitant les élus à des parties de chasse, parce que les bois acquis par l'Andra, en partie, ne lui servent qu'à ça. C'est des réserves de chasse importantes et assez riches qui lui servent à aussi faire miroiter la possibilité de récupérer des réserves de chasse. Et par ailleurs, sur les terres, ils se servent de toutes les réserves foncières comme monnaie d'échange. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un terrain les intéresse, ils viennent avec un autre terrain, 2, 3, 10 kilomètres ou davantage. Ils en ont jusqu'à Verdun pour proposer au propriétaire un terrain contre un autre. Et lui dire, regarde, on prend ton terrain, on t'en donne un autre en échange qui fait la même surface et on t'ajoute en plus 30% du prix qu'on te verse. Donc tu es gagnant et de toute façon, si tu n'acceptes pas, dans quelques années, on ne sera pas aussi arrangeant, ça sera l'expropriation. Énormément de terrains ont été achetés par l'Andra, donc 3000 hectares ont été acquis de terres. Des pressions très importantes exercées sur les gens pour les amener à vendre. Il y a pas mal d'emplois aussi qui sont proposés, soit en direct, ça, ils ne sont pas tellement nombreux, les emplois directs, les emplois indirects par le BTP. Mais ça, c'est une période, c'est-à-dire que tant que l'Andra se construit, fait des travaux, et tant que le GIP abonde des travaux un peu partout, ça entretient des emplois dans le BTP. Mais évidemment, dès que ça retombera, tous ces emplois retomberont avec. C'est des emplois très ponctuels et pas du tout durables. Bah, l'hôtel-restaurant, il est implanté donc dans la zone laboratoire, c'est-à-dire juste en face de l'Écothèque, qui est l'endroit où l'Andra prétend préserver un instant T, l'état de l'environnement. Donc il stocke tout un tas de relevés, de prélèvements pour pouvoir prouver qu'à un instant T, l'environnement était tel et que 20 ans plus tard, il s'est pas beaucoup dégradé. Donc juste en face, on a l'hôtel-restaurant. Et l'hôtel-restaurant, c'est le premier bâtiment commercial privé qui est soutenu par l'Andra et soutenu par la politique du GIP qui va s'implanter dans cette zone-là. Parce que la zone est amenée à s'étendre, c'est ce qu'ils appellent la zone à urbaniser. Donc c'est déjà sympa, zone à urbaniser comme terme. Mais ça devrait accueillir également une station de service, un supermarché, une boulangerie. La boulangerie est en cours de construction déjà. Ce qui est aussi une forme vraiment d'occupation des esprits, c'est-à-dire de dire votre essence ou votre supermarché, il n'y a pas de supermarché à moins de 15 bornes de Bure. Donc mettre un supermarché à cet endroit-là, évidemment, c'est créer l'offre pour amener les gens à aller faire toutes leurs courses à l'endroit, en fait.
Donc là, on a entendu comment, comment les aménageurs développent des stratégies pour séduire les populations ou pour leur mettre un peu la pression de manière en loose day, quoi, on va dire. Et ben, c'est pas les seules stratégies qu'ils ont, puisque l'État met à la disposition des aménageurs sa force de frappe. Et souvent, on a une répression sévère qui s'abat sur les personnes qui essayent de s'opposer à ces projets. On va continuer un peu à entendre ce témoignage à propos de Bure et de la répression qu'ils ont subie, avec, comme on va nous le dire, une escalade de la violence. On ira aussi dans le Val de Suse ensuite pour voir comment eux gèrent la répression là-bas. Et on entendra à la fin un témoignage d'une personne qui était sur la zone de Sivens, donc sur ce projet de barrage dans le sud-ouest de la France, où un manifestant est mort sous les balles de la gendarmerie. Ça se passe, ce témoignage a été recueilli au lendemain de la mort de ce manifestant.
Là, on a une claire escalade depuis 3 mois qui est très visible. 2 mois, 3 mois. On a une inversion totale de stratégie. Avec l'arrestation d'un certain nombre de personnes qui ont été amenées au poste pour contrôle d'identité, la présence constante des gendarmes avec fouille des voitures, des réquisitions beaucoup plus agressives qu'avant. Avant, on avait le droit juste à un contrôle du chauffeur et une technique un peu sournoise de mettre des contraventions quand ils pouvaient. Mais ça, c'était plus cette intimidation-là qu'on avait, nous, des contraventions. Mais ça s'exerçait pas tellement sur les gens du coin, sauf l'été dernier où il y avait aussi une phase un peu agressive de contrôle qui s'exerçait sur tout le monde. Mais là, ça, c'est un changement du tout au tout, parce que c'est fouille des véhicules. Nous, on s'est retrouvés avec les mains en l'air, plaquées contre un mur, avec fouille au corps, à palpation, dans le village où j'habite, en fait. Donc on était 4 à se balader sur un chemin. On a eu 25 gendarmes mobiles en 5 minutes sur nous. Donc on sait qu'il y a des opérations policières qui sont envisagées à Bure d'une ampleur plus vaste que ce que nous on peut... Là, c'est plus un niveau politique d'action. Et la préfecture joue la diabolisation à fond, parce que concrètement, des actions, il y en a très peu qui sont menées à Bure, très marginalement et occasionnellement. Et on n'a pas tant les moyens que ça de mener des actions constantes. À part occuper un bois tout au long de la période des dernières semaines, il n'y a pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose. Hein.
En fait, cette répression, elle est d'abord passée par la prison. Au début du mouvement, tout le monde est passé un moment ou un autre par la prison, ou l'assignation à résidence, donc tu es contraint de rester chez toi. L'assignation à résidence ou l'interdiction de quitter le territoire où tu dois pointer au commissariat et tout ça. Et en fait, cette expérience collective de la répression, elle a été complètement contre-productive pour les flics, puisqu'elle a intensifié les solidarités, puisque tout le monde venait de la même prison. Et souvent, l'assignation à résidence, c'était l'occasion d'aller pendant 6 mois loger chez un voisin, parce que regardez, chez moi, il n'y a pas d'eau et pas d'électricité, vous n'allez pas me mettre là pendant 6 mois, alors laissez-moi aller chez le voisin. Et finalement, cette répression-là, elle a fait qu'intensifier en fait la lutte et l'énergie collective pour faire libérer les camarades. Et il y a eu un point de basculement il y a quelques années où l'État a compris qu'on n'arrêterait pas le mouvement en les enfermant. Et donc, a décidé de passer par des peines financières. Et donc aujourd'hui, c'est des amendes surtout. Et ça a beaucoup changé la physionomie du mouvement parce qu'ils ont été complètement asséchés financièrement. Alors voilà, ils ont fait bien sûr une caisse collective, donc tout le monde met de l'argent et puis les amendes sont payées collectivement. Mais il y a eu tellement, tellement, tellement de peines qu'aujourd'hui ils sont incapables, le mouvement a une dette abyssale et ils sont incapables de payer leurs peines. Et le problème en fait de cette répression, c'est qu'elle tend à créer une division entre les propriétaires, ceux qui possèdent leur maison, éventuellement des terres, un troupeau, et ceux qui n'ont rien. Il y en a énormément aussi qui sont arrivés peut-être un peu plus tard dans la vallée et puis qui enchaînent les petits boulots mais qui possèdent rien. Parce que les propriétaires en fait ont des amendes qui sont beaucoup plus lourdes que ceux qui ne possèdent rien. C'est proportionnel à leur patrimoine. Et donc il y a une forme de division du travail peut-être un peu perverse parfois qui peut s'instaurer entre les propriétaires qui disent bon, nous on est assez payé, on n'en peut plus, on est complètement asphyxié financièrement et on a souvent une famille, et qui demande en fait à ceux qui possèdent rien de prendre tous les risques en leur disant de toute façon vous n'avez rien à perdre. Et ça peut créer des tensions parfois. Et après c'est un mouvement plus large de militarisation de la vallée où tu vas avoir des barrages de flics systématiquement après les apéritivos. En fait, pour contrôler le taux d'alcoolémie, parce que ça les arrange bien de pouvoir arrêter les gens du mouvement, mais aussi une occupation de militaires sur la vallée. Alors ça va très loin, hein, parce que tu te balades dans un petit village en montagne et tu vois un hélicoptère tourner autour de toi, et tu t'apprêtes à parler du chantier, et tout d'un coup tout le monde te dit « chut, on est écouté », alors que t'es en pleine montagne sur un chantier, sur un sentier complètement paumé au milieu de nulle part, mais il y a une surveillance généralisée en fait qui passe par des antennes qui permettent d'écouter... ce qui se passe et ce qui se dit, des caméras aussi qui peuvent être planquées dans des arbres ou en plein milieu de la forêt.
Alors, hier matin, il y a eu un long moment de désarroi de tous les côtés, forcément, de choc, voilà. Ensuite, doucement, on a commencé à s'organiser déjà pour qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui sort comme information de ce qui s'est passé pendant la nuit. Ensuite, nous avons organisé une marche sur Gaillac le soir à 18h. Je peux le confirmer, sachant que j'étais sur place le matin, par exemple, hier, après, il y a une conférence de presse à midi. Ensuite, les journalistes sont venus sur place. Personne ne les a empêchés de voir ce qui se passait. Ils ont eu accès à des témoignages de gens qui étaient sur place au moment des affrontements. Personne n'a vu la police judiciaire sur place. Au contraire, on est ouvert à cette enquête parce qu'on demande que ça, qui est cette enquête. Et on a fait un communiqué de presse aujourd'hui qui est parti pour demander d'enquêter. Et que l'enquête se fasse seulement ce matin, pour nous, est une aberration et une preuve qu'il y a derrière des choses qui se montent à notre insu et contre nous, forcément.
Aux eaux, aux eaux, c'est pourquoi
On a bien vu les stratégies mises en place pour imposer ces grands projets inutiles. Maintenant, on va aller faire un petit tour du côté des résistances et voir comment, dans les différents projets, les résistances s'organisent, à la fois sur le plan juridique et légal, en faisant des recours juridiques, et puis de manière moins légale, en faisant des occupations ou en allant habiter sur place.
Il y a une poursuite, il y aura une poursuite qui est demandée ici, comme sur Notre-Dame-des-Landes, par rapport au fait que la France a déposé un dossier de demande de subvention à l'Europe qui n'a fourni que les éléments à décharge, mais qui n'a pas fourni les éléments à charge. Donc la France s'est inculpée pour Notre-Dame-des-Landes parce qu'elle n'a fourni que les documents, elle n'a pas fourni la totalité du dossier. Et c'est la même chose qui va se passer pour ici, puisqu'ici il y a une plainte de déposer dans le même sens. Et ils ne sont pas contents, paraît-il, à l'Europe, parce qu'ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas les éléments à charge dans le dossier. Il y a trois recours qui sont engagés pour l'instant. Ces trois recours, ils doivent invalider le projet, à la fois sur les espèces protégées qu'on a ici, qu'on a massacrées, sur la zone humide, sur toute la validité du projet. Sauf que le bras de fer, il se situe au fait qu'ils savent qu'ils vont être condamnés. Mais peu importe. C'est une course de vitesse. Ils savent que de toute façon, ils pourront réaliser l'ouvrage avant que les tribunaux aient statué.
À Buren, on a vraiment une stratégie juridique très offensive. On a posé 30 procédures en un an, au pénal, au civil et à l'administratif. On a posé toutes les plaintes juridiques contre le défrichement, contre l'échange du bois, contre également la distraction du régime forestier, c'est-à-dire normalement le bois appartient à son régime forestier, donc là il y a eu un truc un peu rapide où on retire le bois, le jus du régime forestier pour pouvoir faire des aménagements. Enfin bon, il y a eu beaucoup de rapidité, beaucoup de procédures très rapides de l'endroit pour surtout ne pas devoir passer par les étapes nécessaires. Là, actuellement, sur le terrain juridique, on a pris une sacrée longueur d'avance avec le retard du projet d'un an. L'autorisation de création de CIGEO est repoussée d'un an. C'est le directeur qui l'a annoncé en juillet. Et surtout, les avis de l'ASN, donc l'Autorité de Sûreté Nucléaire, et de l'IRSN, l'Institut de Recherche de Sûreté Nucléaire, qui ont mis en cause la sûreté, la sécurité du projet. Donc pour nous, c'est vraiment une confirmation d'arguments qu'on met en avant depuis 15 ans. Mais là, l'occupation a permis de laisser le temps aux procédures juridiques de se faire. Tout l'été, pour nous, c'était l'occasion de renforcer l'occupation. C'est-à-dire, on a besoin de gens dans le bois. Il y a une réelle vie qui s'est installée là, sur place, sur le territoire, et qui a besoin de votre appui pour pouvoir avoir des perspectives dans les mois à venir. En juin, il y a 250 personnes qui sont venues pour envahir la forêt et enlever toutes les installations que l'Andra avait déjà mises, donc les grilles, les poteaux, les grilles, ils étaient en train de clôturer déjà le bois à l'époque. Et donc après ça, durant l'été, il y a eu la mobilisation du bois le jus qui a fait venir plusieurs milliers de personnes tout au long de l'été. Donc ça a été vraiment le point de démarrage de l'intensité, de la visibilité de Bure qu'on connaît actuellement. Ça a donné une visibilité nationale à Bure puisque durant un mois, le bois a été occupé entre juin et juillet par plusieurs dizaines de personnes. Donc, le 7 juillet, expulsion du bois le jus par une centaine de gendarmes au petit matin. Et une semaine plus tard, appel à réoccupation, le 15 juillet, le bois est réoccupé en fait. Il n'est pas totalement réoccupé puisque les gendarmes sont juste repoussés vers le sud du bois, là où un mur commence à être construit. Un mur de 2 mètres de haut en béton, qui devait enclore entièrement le bois le jus. Avec la manifestation qu'on avait appelée le 15 août à réoccupation du bois, on abat 1,2 km de mur avec les 400 personnes qui viennent ce jour-là. Donc ça, c'est une action symbolique très très forte qui a une portée cette fois-ci nationale, puisque la presse nationale, notamment Libé, fait un dossier de 4 pages. Enfin, ça donne vraiment une dimension nationale à la question de l'enfouissement. Parce qu'une lutte d'occupation, ça a toujours beaucoup plus de visibilité qu'une lutte de fond où on ne voit pas forcément ce qui se fait au jour le jour.
On ne voit pas ce qui se fait au jour le jour sur les luttes de fond et donc sur le juridique. Effectivement, les luttes d'occupation ont plus de visibilité. Alors là, on a parlé de l'occupation du bois Le Jus. Il faut savoir que ça se passait en 2016, pendant l'été 2016. Et on a aussi parlé du projet CIGEO. Le projet CIGEO, c'est le nom du projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure. On va continuer à écouter ce témoignage sur Bure, mais pour parler de... plus d'installations de personnes, puisque suite à ce qu'on vient d'entendre, où on parlait plutôt d'occupation éphémère, y a aussi des personnes qui sont installées et qui vivent là à l'année. Et ça permet de construire des solidarités et des formes agricoles d'organisation.
Il nous a paru assez indispensable de vivre là-bas pour lutter là-bas, qu'il fallait vraiment être sur place pour faire partie du territoire pour lequel on prétend lutter, en fait. Et c'était dans cet esprit-là qu'on a commencé à faire de l'agriculture, qu'on a occupé les champs de l'endroit. C'était aussi une façon de... Comme on a eu un gros travail sur le foncier à ce moment-là, avec un inventaire complet du foncier que l'endroit a récupéré, on a décidé de visibiliser ce travail-là par des actions sur l'agriculture. Donc notamment, on a occupé 2 hectares de champs de l'Andra, 3 hectares au total, on a perdu 1 hectare entre-temps, mais dans lequel on a planté d'abord des patates, puis des céréales cette année au printemps. Donc pour nous, c'est une façon de dire l'autonomie, c'est un message à plein de niveaux. C'est dire la disparition des terres agricoles est préoccupante. L'autonomie alimentaire est une question très importante, donc la qualité de l'alimentation, donc ça aussi. Et il y a d'autres moyens de faire fonctionner une économie locale que de lui implanter un projet. La Meuse n'est pas un territoire hypothéqué. La Meuse est un territoire qui est aussi capable de produire des choses et qui en a produit par le passé. Il est tout à fait possible de reconstruire ça par la solidarité, par un travail mutualisé, en fait, que ce soit par l'apparition de coopératives ou de réseaux mutuels. Et on commence à participer à la vie des villages, et ça joue beaucoup aussi pour les gens, qu'on n'ait pas les affreuses hordes de zadistes étrangers venus d'ailleurs.
En fait, il y a à peu près 60 lieux de vie sur la ZAD, donc ça fait à peu près 200 personnes qui vivent à tenir sur la ZAD même, donc c'est énorme, hein. Il y a des enfants, il y a toutes sortes de gens, des gens totalement différents. Et par rapport à la nourriture qui est produite, en fait, ils produisent pour eux, parce que en fait, c'est prix libre. Il n'y a pas d'argent sur la ZAD.
Il n'y a pas de monnaie locale.
Il n'y a pas de monnaie non plus. Donc, en fait, ce qu'on peut donner, on donne. Si on ne peut pas donner, on prend quand même. Si on a faim, on peut manger. Donc, une fois par semaine, il y a un endroit qui s'appelle le No Marché, où les gens qui produisent des choses sur la ZAD viennent apporter, que ce soit le pain, les légumes ou autre. Et en fait, il y a des échanges de faits ce jour-là. Mais, par exemple... des fois, il y a des gens qui produisent beaucoup de pommes de terre, ils en produisent beaucoup pour pouvoir en donner dans d'autres lieux de lutte. Parce que c'est aussi ça, la ZAD. C'est, en fait, ils autoproduisent leur nourriture et le reste, mais aussi, ils donnent aussi pour les luttes ailleurs.
Il ne s'agit pas non plus d'idéaliser cette zone et les habitants qui sont là. Hein. C'est une société comme il y en a partout ailleurs. Donc avec des gens très différents, avec des envies et des désirs complètement, voire opposés, mais qui sont là et qui, chacun à leur manière, exprime une volonté de vivre différemment. Et je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui.
Je pense qu'il y a un élément aussi important, c'est le mode de décision qui est utilisé par les gens en communauté sur un mode non pas du vote, mais du consensus. C'est-à-dire qu'ils discutent sur des choses qui les concernent tous. Ils prennent des décisions ensemble. Alors, ils expliquaient que c'était assez long. C'est-à-dire qu'à un moment, ils abordent une question sur la vie, sur la ZAD, et puis sur l'aménagement éventuellement de la ZAD. Et donc, ils repartent. Chacun donne son avis. Parfois, c'est un peu... c'est très contradictoire, un peu difficile, et puis ils repartent et après ils reviennent. Enfin, les choses s'aménagent petit à petit, et petit à petit ils voient que les décisions se prennent et ils avancent, quoi. Et il faut insister sur le fait que les décisions sont parfois longues à être prises, mais je pense qu'en cas de danger, je pense qu'elles peuvent se prendre très rapidement.
Ce qui est le plus marquant quand on arrive là-bas, c'est justement la diversité des pratiques de lutte. Ça va du blocage d'autoroute à la grande manifestation dans les grandes villes comme Rome ou Turin, le sabotage. Mais un élément qui est central là-bas, c'est ce qu'ils appellent les présidios, qu'on retrouve dans énormément de villages. Il y en avait une vingtaine à l'origine. Aujourd'hui, il y en a énormément qui ont été expulsés par la police et qui n'ont pas encore été reconstruits. Il en reste 3 ou 4. Et les présidios, c'est des lieux qui sont à la fois faits pour accueillir les gens de passage, comme moi, cet été. Mais c'est aussi des lieux de réunion politique pour les gens du village. C'est des lieux aussi pour des grandes bouffes collectives, plusieurs fois par semaine. Voilà, c'est à la fois des lieux de vie et des lieux de lutte. Et c'est des lieux qui servent avant tout à créer en fait une solidarité entre les gens de la vallée, qui ne soit pas simplement une camaraderie politique. C'est très important en fait là-bas de partager plus qu'un simple objectif politique, et de partager aussi par ces moments de convivialité, ces repas, cette vie collective qui s'installe, une vraie solidarité et des amitiés réciproques pour pouvoir lutter ensemble. Et ils ont d'ailleurs une manière très surprenante quand on arrive là-bas, justement, de concilier cette convivialité avec, avec la lutte elle-même, puisque toutes les semaines, ils font ce qu'ils appellent des apéritivos, c'est des grands repas collectifs devant le chantier. Et devant le chantier, ils font des apéritivos, et donc c'est... tout le monde arrive avec sa bouffe, son alcool, son fromage, pour manger devant les flics. Alors, au début, on se demande un peu à quoi ça sert, mais c'est ce qu'ils appellent très sérieusement la guerre psychologique. Et donc, ça consiste essentiellement à narguer les flics en goûtant devant eux le meilleur vin, le meilleur jambon et le meilleur fromage, que certains connaissent d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de flics qui sont aussi originaires de la vallée. Et surtout à les mettre sur le qui-vive en permanence, puisque les actions partent souvent de ces apéritivos. Alors il suffit d'aller manger du fromage de chèvre devant le chantier pour que ce soit le branle-bas de combat chez les flics, et la plupart du temps pour rien. Oui, alors les anarchistes et les autonomes, je disais que pour un Français c'est curieux, parce que pour nous c'est la même chose. En fait pour eux c'est complètement différent, et c'est même les deux spectres différents du mouvement, puisque les anarchistes, c'est justement ceux pour qui, en fait... faire du miel, de la bière et du vin est plus important que la lutte contre le TAV en lui-même. Moi j'ai entendu beaucoup de gens me dire en fait le TAV, bien sûr c'est important, mais maintenant qu'on a réussi à créer en fait ce projet-là, cette vie-là collective, c'est elle qui compte plus que le projet en lui-même, et donc quoi qu'il se passe on a déjà gagné, parce que la vallée est ce qu'elle est et elle le restera. Et à ces anarchistes s'opposent les autonomes, pour qui ce qui compte c'est quand même avant tout d'empêcher ce chantier, et qui ont peur en fait que, qu'à force de diversifier les pratiques on perde les objectifs politiques, et qui ne s'opposent pas évidemment à l'installation d'une bibliothèque ou d'un centre social dans un village en haute altitude, mais qui considèrent que ce qui importe avant tout c'est de maintenir la pression. Mais il y a quand même une complicité qui se crée et qui est assez marrante entre le vieux berger de 80 balais Et le jeune Toto de Turin, et cette complicité elle s'est créée avec le rythme de la lutte en fait, par les événements qu'ils ont vécu ensemble et les affrontements qu'ils ont vécu côte à côte. Donc chacun sait qu'il ne pourra pas gagner sans l'autre. Donc il y a une vraie complicité quand même qui s'est créée entre tous ces gens-là.
Chacun sait qu'il ne pourra pas gagner sans l'autre, et ça c'est vrai autant dans le Val-de-Suse qu'à Bure, qu'à Notre-Dame-des-Landes. Et qu'à Sivens, l'enjeu c'est de réunir des personnes un peu diverses. Voilà, c'est terminé pour cette émission autour de ces luttes autour de l'aménagement du territoire. Il faut signaler que tout ça a été fabriqué collectivement avec plusieurs personnes pendant plusieurs week-ends de radio et d'ateliers.
Je pense qu'en tout il y a bien une dizaine de personnes qui ont participé à la création de ce docu-là. Et le but, c'est notamment de pouvoir l'emmener un peu en bagage pour aller montrer un petit peu à des gens ce qui se passe en ce moment en termes de résistance à ces grands projets en France.
Il faut dire aussi que les sons qu'on a entendus n'ont pas été enregistrés spécifiquement à destination de ce documentaire, mais qu'on est allé piocher dans des émissions déjà existantes pour fabriquer ce documentaire qui est un peu une compilation ou un pot pourri de témoignages autour de...
Pas si pourri quand même.
Pas si pourri, mais c'est le terme approprié en français. De témoignages autour de ces différentes luttes. Au revoir à toutes et tous.
Ciao, ciao.
Et vous allez maintenant entendre une interview d'une personne du kiosque. Retour sur la création initiale d'un infokiosque au squat Le Clandé, jusqu'à la librairie associative que l'on connaît aujourd'hui et qui aura bientôt un nouveau local fait main.
Alors, le week-end radio à la Chapelle, ça continue. On est toujours là et on continue d'inviter des collectifs qui font les luttes à Toulouse. Et comme on est sur place à la Chapelle, eh ben, en fait, on va parler maintenant un peu avec un membre du collectif. Hein, je ne sais pas si c'est un collectif d'ailleurs, le Kiosque.
Ouais, c'est un collectif, oui. Ouais. On est même une association déposée. Déposer quoi.
Ok, d'accord. Donc, ton prénom c'est Arnaud. Et ouais, est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi le Kiosque, d'où ça vient, quel âge ça a, tout ça, son histoire quoi.
Alors le Kiosque, ça a commencé. Non, déjà, qu'est-ce que c'est le Kiosque? Le Kiosque c'est une librairie associative. Voilà, ça a commencé il y a 15 ans, une quinzaine d'années, au Clan D, qui est le fameux squat toulousain que j'ai pas eu la chance de connaître, où pas mal de gens sont passés, ont eu. Se sont politisés, ont eu des expériences de vie assez chouettes. Voilà, il y a pas mal, apparemment, à écouter les témoignages des gens qui ont vécu cette période, il y a beaucoup de choses qui ont été construites là-bas. Et donc, ils ont commencé à faire une petite librairie associative. Là, je pense que c'était simplement érigé en collectif, ouais. Avec des brochures et des livres qui vendaient. Il faisait aussi un ciné-club. Donc ça a duré quelques années. Le Clan D n'a pas survécu. Ensuite, on a été à la maison des associations Arnaud Bernard,
ouais.
Jusqu'il y a 2 ans. Et à 2 ans, le maire a voulu reprendre la maison des associations du quartier Arnaud Bernard. Donc on a été gentiment foutu à la porte.
Ouais.
Donc gentiment, avec un bon coup de pied au cul quand même. Et depuis 2 ans, là, on est à la Chapelle. On est dans les combles de la Chapelle parce qu'on n'a pas l'espace pour pouvoir avoir une librairie, un espace où tu peux choisir tes bouquins avec l'entièreté du catalogue qu'on a de bouquins, quoi. Donc, le truc, c'est que tous les bouquins, ils sont dans un comble et on sort tous les lundis soirs où... à des moments précis, des événements précis comme aujourd'hui, une table de presse qui va donner un petit aperçu de ce qu'on peut avoir et en rapport avec ce qui se passe dans la journée, dans l'événement quoi. Okay. Donc c'est une librairie associative, on vend des bouquins, des revues, des BD. Et on fait des soirées aussi. Donc là, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait parce qu'on n'a pas forcément d'espace dédié, on n'a pas un espace à nous. Mais on faisait beaucoup de projections, de films, de documentaires, de choses comme ça.
Ok. Et du coup, librairie, on vous voit tous les lundis à la relâche.
Ouais.
Et là, maintenant, vous allez peut-être avoir un petit local à côté.
Oh, petit local quoi, tout de suite un grand et magnifique
grand local.
Local.
Non, je l'ai pas vu en construction.
Ouais, il y a eu ce truc qui était super chouette, c'est d'avoir eu un espace possible de construire un local en dur quoi. Donc il y avait un local sur le bord sur le côté de la chapelle pour ceux qui connaissent, derrière après les toilettes, à côté de la cuisine d'été là. Il y avait un four à pain et un énorme tas de merde qui était sous un petit truc en dur. Et on a refait toute la toiture, on a refait toute la couverture. On est en train de monter les murs. Donc on monte les murs en terre paille. C'est un petit peu long, mais ça va être vraiment cool. Et on va avoir vraiment un espace à nous. On n'est plus dans les combles. On a notre kiosque à nous pour la première fois depuis 15 ans avec quelque chose qu'on a construit nous-mêmes et ça va être plutôt chouette.
Ouais, c'est grave de boulot en plus, c'est trop bien. Et mais du coup, pour en revenir au truc de la librairie, je me dis en fait ça doit être assez chouette d'être derrière la table parce qu'en fait t'as un peu accès à ce à quoi les gens s'intéressent, pas forcément en collectif tu vois, mais ce qu'ils vont lire quand ils rentrent chez eux.
Ouais.
Est-ce que du coup les gens quand ils viennent ils vous demandent quel genre de bouquin ou alors est-ce que t'as des anecdotes sur des demandes particulières? Non je rigole, mais plutôt en fait les gens quand ils viennent ils sont en recherche de quoi comme littérature?
Alors généralement les demandes sont assez diverses. Moi j'adore faire les tables justement pour ça, pour être avec la personne qui va venir chercher un bouquin ou qui fouine et qui te pose des questions sur bon, tel truc tu connais, machin. Donc c'est des super prises de parole et des rencontres qui sont assez chouettes. Nous, on a autant des livres qui sont des livres de réflexion, des livres théoriques, que des autobiographies de militants, que des récits d'expérience, et des romans. Et des romans aussi. En fait, ce que j'ai pas dit auparavant, c'est que le but premier du kiosque, c'est de promouvoir des petites maisons d'édition qui n'ont pas trop la chance d'être publicisées et qui font un travail d'édition. Le meilleur exemple, c'est Plein Champ. C'est un mec qui a genre 70 ans et son trip depuis 30 ans, c'est de sortir des bouquins. Mais de les faire, en fait. De faire des bouquins. Mais ça le fait royalement chier de les vendre. Donc il fait ça chez lui, il fait des bouquins chez lui. Et il les vend très peu parce qu'il n'a pas envie de le vendre. Donc nous, on lui en achète pas mal. Et comme nous, on est assez fan de ce qu'il fait parce que le produit est super beau. Les histoires sont super belles, il est spécialisé dans la littérature prolétarienne, donc c'est des ouvriers qui écrivent, et on a à cœur de soutenir des gens comme ça. Il y a plusieurs autres maisons d'édition, et quand on a quelque chose à cœur, ça marche bien parce qu'on a envie de le défendre, de dire « Ah ben tiens, ça t'intéresse, ben moi j'ai ça, ça peut peut-être aussi te motiver ». Et les demandes sont assez larges, mais je dirais que moi, que les gens que je vois passer en fait sont curieux et n'ont pas forcément un titre précis à vouloir acheter, ou alors ils savent très bien, ou c'est des habitués, et ils savent très bien que bon, telle maison d'édition a sorti un bouquin, on va le trouver au kiosque, donc on vient l'acheter au kiosque. Mais les bouquins vont avec le vendeur, on va dire.
D'accord.
Moi je lis très peu de romans, je sais pas défendre des romans. Par contre, des récits d'expérience, une maison d'édition comme L'Échappée, j'adore le travail qu'ils font, ça je vais arriver à les vendre. C'est chacun sa petite spécialité. Mm-hmm. Donc moi je dirais que oui, moi, je suis plus fort pour les récits d'expérience, les récits de lutte. Ça c'est ça qui me motive, donc c'est ça que je vends le plus. Mais en demande bizarre, je me souviens pas forcément. Je me souviens
c'est
pas forcément.
Un peu à la con.
Ouais, mais ça, je me souviens quand même à 2-3 reprises. Et lundi soir à La Chapelle, ça ramène vraiment beaucoup de monde. Et 2-3 conspi qui me demandaient des trucs sur les qu'on appelle ça les chemtrails ou les trucs comme ça.
Les quoi? C'est,
les chemtrails.
C'est... Ah, mais c'est pas une conspi. Elle.
je sais pas ce que c'est. Mais
les chemtrails, c'est hyper sympa, les chemtrails. C'est un truc de conspiration. En fait, les avions de ligne, quand ils sont dans le ciel, généralement, ils ont des traînées blanches.
Ouais.
Et donc, selon des gens, les traînées blanches seraient du gaz toxique épandu sur la Terre. Bon, ridicule.
D'accord, donc pas forcément d'études là-dessus. Enfin, vous n'avez pas de bouquin sur les chemtrails.
Non, on n'a rien sur les conspis, à part si on a un livre sur les conspis, ça sera un livre de critique sur la théorie sur les différentes théories de conspirationnistes, quoi.
Ouais, après, j'ai remarqué après, du coup, ça fait quelques temps que je ne suis pas venue, mais je sais que vous avez un petit stock quand même sur le nucléaire, notamment sur ces luttes-là. Et que, ouais, du coup, il y a des copains dans votre asso qui connaissent bien le sujet, et c'est chouette. Donc, si ça vous intéresse, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à venir si ça, puis pas, enfin, plein d'autres bouquins sur des luttes décoloniales, féministes.
Ouais, on essaye de brasser assez large avec nos convictions. Donc, est-ce que le kiosque est politisé? Le kiosque en tant que tel, je ne pense pas, mais la somme des gens qui sont dedans, oui. Et vont avec nos préoccupations. Donc, effectivement, il y a et nos préoccupations et ce qui se passe en termes de lutte aussi aux alentours. Donc, le nucléaire avec Golfech, avec ou même avec les AZF. Donc, c'est pas le nucléaire, mais bon. Il va y avoir des bouquins dans ce sens. Les copines sont attachées, c'est cliché, mais sont attachées aux bouquins féministes. pas que les copines, mais elles sont motrices de ça. Enfin, chacun va envie de soutenir un truc et ben, il soutient et on cherche ce qu'il faut.
Ok, et du coup, ouais, je m'étais dit peut-être, même si ça peut apparaître un peu évident, mais pourquoi est-ce que c'est important pour vous particulièrement de vous investir dans ce projet-là et pourquoi c'est important d'avoir une librairie alternative, que ce soit dans son fonctionnement, mais aussi dans les livres qui sont proposés. Pourquoi c'est important qu'il y ait ça à Toulouse et que...
Oui, il y a, comme je disais tout à l'heure, c'est important pour nous pour soutenir les petites maisons d'édition. Parce que si on laisse mourir les petites maisons d'édition, tu te retrouves avec des gros éditeurs qui n'ont que des bouquins qui sont... qu'il n'y aura pas de critique sociale, ou très peu, ou ça sera complètement différent. Donc les petites maisons d'édition qui ont fait un joli produit, qui sont des gens, des petits artisans du livre, ça nous tient à cœur, ça, de les défendre. Et aussi, pour nous, je pense que pour nous tous et toutes au kiosque, ce qui est hyper important, c'est que c'est moteur de la lecture, et les livres, les brochures, donc la lecture au sens large, est moteur de réflexion politique, de réflexion personnelle, mais moteur de réflexion. Et pour nous, c'est la lecture a une très grande importance sur la politisation. On est tous passés par des bouquins, des brochures, pour avoir des capacités réflexives sur tout un tas de sujets. Donc voilà, ça nous tient vachement à cœur. Et on n'a pas que de la vente de bouquins, on a des soirées, mais c'est pareil, ça va dans le même sens. Un documentaire avec une discussion, c'est pour passer un message, pour réfléchir, quoi.
Ouais.
Ça fait assez... des fois, je me marre à l'idée de voir le kiosque comme des vieilles causeries populaires dans le milieu anarchiste de la fin du 19e où il y a un partage d'informations et on cause de sujets, on cause de bouquins, je sais plus c'est quoi le terme, je vais avoir un blanc, mais on diffuse l'information pour faire grandir tout le monde, quoi.
Mais grave, non, mais c'est vrai que, enfin, moi, en étant venu plusieurs fois, j'ai acheté des bouquins au kiosque, mais c'était jamais sans en fait une discussion avec des personnes, et en fait ça change tout, quoi, parce que tu partages, tu peux même faire un retour après, t'as des gens qui parlaient des bouquins que t'as lus, et en fait c'est vrai qu'au final, même dans plein de librairies qui sont pas forcément les plus grandes librairies capitalistes à Toulouse, bah, y a pas toujours ce lien en fait qui est fait, et ça change tout, ouais, carrément. Et c'est cool, et du coup là vous êtes là tout l'après-midi.
Ouais, tout l'après-midi, puis dimanche après-midi aussi.
Trop bien, avec aussi, je sais pas si c'est vous qui avez mis ça en place, mais il y a de la sérigraphie à côté, je sais pas.
C'est
si
des copains, ouais, c'est collectif associé, on va dire. Pas mal de gens du kiosque font partie de l'atelier de sérigraphie La Turbine, qui est là cet après-midi pour sérigraphier des t-shirts, différents tissus, des affiches. Faut y passer, il y a des super beaux... super belle image à sérigraphier.
Trop bien. Bah ouais, passez pour voir le kiosque, la sérigraphie, les petits ateliers et tout. On vous attend à la chapelle. Bisous.
Ils nous peinent dans leurs mailles. Nous saisissent à bras le corps, nous attachent à la ferraille, ne nous laissent que l'effort. Ils nous font jouer les cobayes, puis nous jettent à moitié morts. Ils nous mettent sur la paille, quand s'entasse leur trésor. Ils nous brident et nous baladent, nous font cuire dans leur bouillon. Nous mélangent à leur salade, nous promènent comme des pions. Il nous faut tomber les grilles, vaincre la loi du plus fort, se repartager les billes et repeindre le décor, et repeindre le décor. Passe-moi mon drapeau rouge, que je l'accroche au volet. Regarde-le comme il bouge. rue ensoleillée. Passe-moi mon drapeau rouge, que je l'accroche au volet. Passe-moi mon drapeau rouge, et le noir tant que tu y es. 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 Ragadigade, la langue me démange. Ce matin je me sens tout remonter. Ragadigade, je voudrais que tout change et connaître enfin la félicité. Ragadigade, je cours à la fenêtre et j'ai envie de gueuler un bon coup. Ragadigade, envie d'envoyer paître tous ces méchants, ces puissants, ces filous. Ragadigade, connons de toutes sortes. Aujourd'hui il ne faut pas me brancher. Ragadigade, le diable vous emporte, il est grand temps pour vous de raccrocher. La gadigade, franchement, ça soulage et ça t'empêche de devenir faux. La gadigade, tant pis si c'est pas sage. Il ne fallait pas nous pousser à bout. Il ne fallait pas nous pousser à bout. Nous pousser à bout, nous pousser à bout. Passe-moi mon drapeau rouge, que je l'accroche au volet. Regarde-le comme il bouge dans la rue ensoleillé. Passe-moi mon drapeau rouge, que je l'accroche.